Docteur Lampert, merci d'être avec nous sur cette entrevue.
Bon, merci, ça fait plaisir.
Alors, vous avez grandi, étudié et travaillé au Québec dans un environnement bilingue avant de vous établir en Ontario en 1994. Pouvez-vous nous raconter en résumé votre parcours universitaire et professionnel et puis ce qui vous a motivé à devenir psychologue?
Bon, j'ai toujours été intéressée dans la psychologie. Depuis même mon adolescence, j'ai découvert la revue Psychology Today et j'ai toujours trouvé ça intéressant, puis aussi juste de lire des livres sur le bien-être émotionnel. Ça m'a motivée à continuer à faire des études en psychologie. J'ai fait un bac en Ontario, par exemple, à Waterloo, à l'Université de Waterloo. Et après ça, je suis retournée à Québec, à Montréal. J'ai travaillé dans un institut psychiatrique à Montréal dans la recherche clinique sur les médicaments, sur les nouveaux médicaments pour la dépression et l'anxiété. Et c'était une expérience très riche pour quelques années. C'était une bonne formation sur l'aspect biologique de la santé mentale qui m'apportait une bonne connaissance et confort avec les médicaments qui continuent d'être importants dans mon travail aujourd'hui même. Après ça, je suis allée à l'Université Concordia pour faire ma maîtrise et mon doctorat. Et pendant ce temps-là, j'ai aussi fait des recherches en neurosciences, à part de l'entraînement de la formation clinique, psychologie clinique. Et en neurosciences, c'était juste en regardant les systèmes neurochimiques dans la dépression, l'anxiété et la stress. Après ça, j'étais engagée comme psychologue dans un CLSC. Ce sont des centres de santé communautaire partout en Québec et je faisais partie d'une équipe multidisciplinaire pour des gens en santé mentale qui avaient des difficultés en santé mentale et c'était une expérience très intéressante et satisfaisant juste de travailler en équipe là-bas comme ça. Après ça, je suis venue à Toronto et j'ai travaillé dans un hôpital de réadaptation en travaillant avec les gens qui ont soumis des accidents importants, des accidents majeurs au travail ou bien des accidents de route et ils avaient des blessures assez importantes. Ça avait un grand impact pour eux côté physique, mais aussi il y avait aussi le traumatisme qui était associé avec ces accidents. On travaillait aussi là-bas à l'hôpital l'impact de la traumatisme, la dépression, l'anxiété. Tout ce qui concernait, tout ce que leur concernait aussi face à l'ajustement face à leur incapacité physique et les limitations qu'ils devaient apprendre à vivre avec.
Ça, c'est dans le cas où il y a, par exemple, une modification des capacités motrices où les gens ne peuvent pas continuer à faire le même travail.
Oui, c'est ça. Alors, il y a beaucoup de deuil juste face à côté physique, face à une perte de fonctionnement, face à une perte de leur travail, le sort de travail qu'ils faisaient dans le temps, qu'ils n'étaient plus capables de faire, peut-être même plus être capable de travailler ou bien aussi de juste de voir est-ce qu'il y a une autre chose qu'ils peuvent faire malgré ces blessures qu'ils ont et les limitations physiques. Alors, c'était une assez grande chose pour traumatique dans différents sens pour eux. Alors, le côté psychologique était très important aussi pour les aider à gérer tout ce qui se passait dans leur vie.
C'est vrai qu'on n'y pense pas souvent. On pense souvent quand il y a des accidents de travail ou des accidents de la route, on pense au traumatisme physique, mais on ne pense pas forcément au traumatisme psychique qui peut s'en suivre. Alors, je crois que vous aviez, lorsque vous travaillez avec cette équipe multidisciplinaire en santé mentale, ce qui m'intéressait, c'est de savoir quelles leçons majeures vous avez tirées de cette expérience et surtout par rapport à notre système de traitement des troubles de santé mentale. Tout système peut être amélioré, mais j'aimerais savoir qu'est-ce que vous en pensez. Quel est votre point de vue là-dessus?
Alors, il y avait beaucoup de valeurs, ou il y a beaucoup de valeurs de travail en équipe multidisciplinaire. Les différentes approches différentes choses marchent pour différentes personnes. Chacun a leurs besoins, un certain besoin, et d'être capable de travailler en équipe multidisciplinaire, ça nous aide. Ça nous donne la chance de leur aider sur différents plans. Et côté santé mentale et surtout avec les difficultés qui sont plus sévères, c'était très bien juste d'être capable de travailler comme avec art thérapeute pour les gens qui surtout avaient des difficultés à s'exprimer verbalement. Ou bien articuler leurs difficultés des infirmières, côté stress, côté comment gérer le stress, la nourriture et tout ça, aussi du support dans la communauté, les gens qui, des conseillers qui allaient chez les patients pour leur aider avec leurs choses quotidiennes dans leur maison ou dans la communauté pour essayer à trouver des supports ou faire des liens ou les aider avec les choses avec lesquelles ils avaient de la difficulté
à fonctionner dans la vie,
dans la vie quotidienne, c'est ça. Alors, c'était une bonne... Alors, c'est ça, c'était une bonne approche qui était très... Et les gens... On a avancé beaucoup avec ça et c'était un peu à long terme aussi. Alors,
est-ce que vous diriez que c'est une approche qui s'est généralisée aujourd'hui dans le système de traitement des problèmes de santé mentale? Est-ce que l'approche pluridisciplinaire est plus commune aujourd'hui qu'elle ne l'était autrefois? C'est devenu une approche habituelle?
Ça c'est une bonne question. On trouve ça plutôt peut-être, je ne sais pas si c'est plus souvent, mais c'est plutôt dans les cas de santé mentale plus graves.
D'accord.
Et ça arrive... Oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne question parce que ça touche aussi peut-être les fonds qu'il y a pour la santé mentale dans les hôpitaux, dans le secteur public aussi. Alors, les fonds gouvernementaux sont très, très importants pour des cliniques comme ça, mais aussi même juste en général pour une psychothérapie ou pour des gens qui ont des difficultés santé mentale moins sévères ou juste des gens qui ont des difficultés quotidiennes qu'ils ont besoin de parler avec quelqu'un après une perte ou après un stress. Alors...
C'est un petit peu aussi, je pense, ça rejoint un petit peu peut-être l'évolution de la médecine traditionnelle qui a une approche plus holistique aujourd'hui qu'autrefois. C'est peut-être moins purement mécanique qu'autrefois. On regardait le problème de santé d'un point de vue très mécanique. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui marche pas? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Est-ce qu'on peut réparer comme si c'était une machine? Je pense qu'aujourd'hui, la conscience est généralisée que l'être humain, c'est un tout. Et que le mental et le physique sont reliés aussi, et que donc c'est important de que vous mentionniez la thérapie par l'art. Je crois que c'est vraiment intéressant comme approche, parce que comme vous dites, il y a des gens qui n'arrivent pas à s'exprimer. Et donc, leur donner un moyen artistique de s'exprimer, c'est...
Et il y a une reconnaissance aussi de plus en plus et à base, avec une base de recherche assez large que les psychothérapies, les approches psychologiques... peut être aussi efficace que les médicaments dans certains cas et avoir des et qui soit efficace pour longtemps aussi. Alors il y a cette connaissance qui est de plus en plus qui informe les traitements et juste comment on approche la santé mentale et les difficultés que les gens passent, petits et plus grands, qu'il y a une valeur là de regarder toute l'humaine, toute l'être humain et qu'il y a des différentes approches, des différentes choses qui peuvent les aider, et qui ont beaucoup de valeur. Alors ça, c'est une grande étape, ça c'est un grand pas, c'est ça,
Alors, je crois que depuis 2002, vous travaillez surtout dans votre cabinet privé et vous avez, mais je crois que vous continuez aussi les évaluations de patients ayant subi des accidents traumatiques, mais vous conduisez des psychothérapies avec des individus et des couples en leur offrant des conseils en français et en anglais. Et donc, est-ce que vous avez beaucoup de clients francophones?
Ah oui.
Des patients francophones.
Oui, des patients francophones, oui. Il y a beaucoup de Québécois, des Franco-Ontariens, aussi des gens qui viennent d'Europe et même d'Amérique du Nord ou de Haïti aussi. C'est Toronto commencé, c'est une ville très ethnique, multi-ethnique. Alors, on voit ça, je vois ça dans mon cabinet aussi, différents pays dans le monde où on parle français et les gens apprécient ou cherchent un traitement en français dans leur langue maternelle, dans lequel ils sont plus confortables à s'exprimer.
Et donc, je crois qu'il y a beaucoup de psychologues à Toronto. Comment est-ce que les gens vous trouvent? Est-ce que c'est par référence? Quelqu'un les réfère à vous, à votre cabinet? Ou bien c'est par Internet? Comment les gens vous trouvent, finalement?
Souvent par Internet.
Par Internet.
Il y a dans l'annuaire francophone aussi, ou le centre francophone à Toronto. La plupart du temps, c'est les gens eux-mêmes qui font le contact, qui me trouvent et qui font le contact. Souvent aussi, je reçois des références des médecins de famille. Après un rendez-vous chez eux, il identifie une difficulté psychologique ou juste un stress avec lequel la patiente ou la personne peut avoir... ou une intervention peut être utile.
Oui.
Alors, j'ai des références comme ça aussi ou par d'autres professionnels dans la santé, comme des naturopathes ou des physiothérapeutes, des avocats aussi pour les gens qui sont engagés dans des processus légaux.
Yeah. Et qui ont des difficultés peut-être ou des stress.
Oui, c'est ça.
Alors, j'imagine que dans chaque cas est unique, mais bon, je pense que comme tous les psychologues, vous suivez une procédure. Peut-être vous pourriez nous expliquer comment commence le processus de traitement. Une fois que vous êtes, que les gens sont venus vous voir, vous vous êtes mis d'accord, pouvez-vous nous expliquer comment commence le processus?
Alors, je dirais que le processus commence même au téléphone. Par exemple, même si les gens me contactent par email, que on essaie d'avoir toujours une discussion au téléphone pour prendre un certain temps juste pour avoir une idée. Ce sont quoi leurs difficultés? Ce sont quoi les concernent? Si c'est quelque chose avec lequel Je peux les aider si c'est parmi mes spécialités ou bien si s'ils ont besoin d'une référence à un collègue, par exemple. Aussi pour les aider à savoir ou à expliquer comment ça marche, comment on va procéder quand ils viennent, s'ils décident de venir, que les premières séances sont une sorte d'évaluation pour encore mieux comprendre, essayer de mieux comprendre ce sont quoi leurs concerns, d'avoir aussi une idée de leur histoire, les relations importantes dans leur passé et dans le présent. Et aussi, ce sont quoi les buts pour essayer d'avoir une idée de ce sont quoi leurs attentes pour une thérapie et de moi.
Parce que ça peut être différent de ce que peut-être le médecin oui, référent exactement. Vous a expliqué. Eux, ils ont peut-être une autre perspective sur le traitement.
C'est ça, c'est ça. Et aussi, avec les sessions initiales, ça leur donne en même temps une chance de voir s'ils sont confortables de travailler avec moi. Alors, c'est pour moi d'avoir une idée de comment ils sont et si je peux être utile. Et pour eux, de voir s'ils sont confortables pour travailler avec moi aussi.
Oui.
Et après ça, on arrange les sessions pour commencer.
Et donc, comme vous mentionnez, c'est important que le docteur et le patient se sentent à l'aise ou pensent qu'ils peuvent travailler ensemble. Est-ce qu'il arrive qu'après le premier ou le deuxième rendez-vous, un ou une patiente décide de ne pas poursuivre? Est-ce que ça arrive?
Oui, ça arrive et... C'est très important. C'est un but assez important dans les sessions initiales. Pour les patients, juste de voir est-ce qu'ils sont confortables, est-ce qu'il y a comme un fit, est-ce qu'ils sont comme un fit ou un match avec le thérapeute, match en termes de style personnel et professionnel aussi. Est-ce qu'ils sont bien écoutés et bien compris aussi? Alors, ça peut même prendre quelques sessions juste avant d'être clair sur ça. Et ça c'est très valable et très valide aussi.
Je crois que, peut-être une question, juste un aparté là-dessus, est-ce que vous voyez des différences d'approche lorsque vous traitez, est-ce que vous traitez des jeunes patients, c'est-à-dire des enfants ou des adolescents, sans que les parents soient là, ou est-ce que vous traitez uniquement des adultes?
Je traite uniquement des adultes, des individus et des couples.
D'accord. Alors, je crois que les services offerts par les psychologues ne sont pas couverts par l'OIP, hein, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Vous pouvez nous expliquer, pour conclure cette première partie, est-ce que vous pourriez nous expliquer les différentes options disponibles pour que les frais de soins psychologiques soient pris en charge pour les personnes qui aimeraient suivre un traitement?
Oui, c'est certainement. Il y a souvent des assurances. Si on travaille, des fois, on a des assurances de santé qui sont offertes par notre travail, notre lieu de travail, qui couvre des services psychologiques à une certaine limite. Et aussi, ils ont des programmes souvent d'aide à l'employé.
Des bénéfices pour les employés.
Oui, c'est ça.
La mutuelle, j'imagine, l'assurance complémentaire qui peut couvrir.
Oui, c'est ça. Avec un certain montant chaque année pour couvrir un psychologue, pour les services d'un psychologue. Il y a d'autres assurances qu'on peut trouver. Il y a l'assurance qui est associée avec les accidents de travail. Alors, ce serait le C'est ça. Avec,
ce serait l'employeur à ce
moment-là. L'employeur ou en anglais, on dit WSI. C'est la compensation des travailleurs, c'est ça. Aussi, les accidents de la route, c'est couvert côté psychologique, c'est couvert par les assureurs d'auto, pour l'assurance automobile.
Ah, d'accord. OK.
Aussi, par exemple, les gens qui étaient, qui faisaient partie ou qui font partie de la service militaire canadienne, ils ont des assurances ou c'est couvert par le gouvernement, ainsi que pour les aboriginaux, c'est possible d'avoir...
Les Premières Nations, il y a des assurances spéciales, d'accord.
Oui, okay. c'est ça. Et à part de ça, il y a toujours dans les hôpitaux, dans les centres de santé communautaire, et les médecins et les psychiatres qui sont couverts par OHEP.
Mais
quand même, c'est pas toujours facile. Il y a des listes d'attente et tout ça. Alors, mais il y a des façons d'essayer de trouver des services qui sont couverts.
Parce que j'imagine que la psychiatrie, c'est considéré comme un soin médical. Hein. C'est ça la différence entre psychologie et psychiatrie. Psychiatrie, ça fait partie de l'hôpital, donc c'est couvert sous les soins médicaux, en fait. Hein.
C'est ça. Ils sont médecins par formation. C'est ça, les psychologues sont pas médecins. C'est pour ça.
D'accord. Écoutez, je vous remercie, Dr. Lampert, pour cette première partie. C'était vraiment intéressant.